La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end RMC, il est 9h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. À la une, ces émeutes en Nouvelle-Calédonie qui ont fait une nouvelle victime. Un homme est mort près d'un barrage dans un échange de tirs. C'est le sixième décès en moins d'une semaine. Nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité également, pourquoi, pour quelle raison précise un jeune homme a-t-il attaqué la synagogue de Rouen? Tout ce que l'on sait sur le profil de l'assaillant tué par la police dans ce journal. Et puis du rugby, La Rochelle à la peine en top 14 pourrait bien jouer sa place en phase finale contre Pau ce soir.
Le bilan s'est encore alourdi en Nouvelle-Calédonie.
Où l'on retrouve en direct le correspondant de RMC, Nicolas Legrand. Nicolas, un homme est donc mort ces dernières heures, portant à 6 le nombre de victimes depuis le début des émeutes.
Oui, les circonstances exactes restent encore à déterminer, mais d'après nos informations, un père de famille a voulu passer un barrage indépendantiste à Calagomène, au nord de l'île, épargné pourtant jusqu'ici par les affrontements. Les manifestants lui auraient refusé l'accès. Il serait finalement revenu une seconde fois vers 14h30 et c'est là que l'échange de tirs aurait éclaté. Il a été tué. Deux autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Il s'agirait de son fils et d'un homme sur le barrage, selon plusieurs sources. Alors la nuit vient de tomber ici à Nouméa, qui est sous couvre-feu. Les habitants se barricadent. Aujourd'hui, les renforts de police et de gendarmerie ont libéré quelques secteurs, mais il reste encore des zones hors de contrôle. Dans la journée, les autorités locales et un parti indépendantiste ont renouvelé leur appel au calme et à observer un temps de deuil. Reste maintenant à savoir s'ils seront entendus.
Nicolas Legrand, direct de Nouvelle-Calédonie pour RMC. Et cette situation en Nouvelle-Calédonie qui était l'objet d'une réunion à Matignon hier soir. Gabriel Attal entouré des forces parlementaires, parmi elles la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils ont tous deux plaidé pour une mission de dialogue et surtout un report de la convocation du Congrès, lui qui devait entériner en juin la réforme du corps électoral calédonien qui provoque la colère des indépendantistes.
Dans l'actualité également ce matin, la Moselle sous la menace des eaux.
Après la vigilance pluie d'hier, le département placé en alerte rouge crue cette nuit. La rivière Niers doit atteindre des niveaux records avec déjà beaucoup de travail pour les secours, Solène Gardré.
Oui, il y a eu de nombreuses interventions des pompiers cette nuit. 120 étaient encore en cours ce matin selon la préfecture. Heureusement, aucune victime ou blessée n'est à déplorer, mais de nombreuses villes sont inondées. C'est le cas de Bouzonville, nous racontait ce matin son maire Armel Chaban.
Il y a encore plusieurs îlots d'inondation, dont celui devant moi en plein centre de la commune, ce qui fait que le centre de la commune est devenu une petite île à ciel ouvert puisque nous ne pouvons plus accéder aux autres quartiers de la ville ni aux autres axes structurants routiers pour sortir de la commune.
Une vingtaine de personnes de la commune ont dû être évacuées, précise le maire. Ce matin, le TGV qui était bloqué hier à Hombourg-Haut devrait repartir, a annoncé la préfecture. Mais l'accès à l'autoroute A4 dans le sens Paris-Strasbourg, lui, est toujours coupé.
Et je vous signale également que le département du Bas-Rhin est, quant à lui, en vigilance orange crue.
Des centaines de personnes à Paris, d'autres à Rouen, toutes rassemblées, après l'attaque d'une synagogue rouennaise hier.
Un incendie déclenché par un homme âgé de 24 ans, le même qui s'est ensuite rué avec un couteau sur un policier qui l'a finalement abattu. Alors que l'émotion s'exprime, l'enquête, elle, démarre. Guillaume Bier, à commencer par le profil de l'assaillant.
L'assaillant n'avait jusqu'ici jamais eu affaire à la police et il était inconnu des services de renseignement. La seule procédure le concernant est administrative. Cet Algérien avait déposé il y a 2 ans à la préfecture de Seine-Maritime une demande de titre de séjour pour raison de santé, affirmant être malade et avoir besoin de soins spécifiques en France. Après examen et avis médical, sa demande a été rejetée. Il a alors fait l'objet d'une OQTF, lui laissant 1 mois pour quitter lui-même le territoire. Une décision qu'il a contesté en justice, mais le tribunal lui a donné tort au début de l'année. Conséquence, cet homme était officiellement en situation irrégulière, inscrit comme tel au fichier des personnes recherchées, ce qui aurait permis de l'arrêter s'il avait fait l'objet d'un contrôle d'identité.
Guillaume Bié pour RMC. À l'étranger, Volodymyr Zelensky craint que l'offensive russe au nord-est de l'Ukraine ne soit qu'une première vague, et ce, alors que Kiev n'a qu'un quart des moyens anti-aériens pour se défendre, affirme le président ukrainien dans un entretien à l'AFP.
9h05 sur RMC. Vous avez peut-être attendu ce matin pour partir en week-end de Pentecôte. Bonne pioche.
Et oui, parce que ce sera plus calme aujourd'hui, avec du orange prévu dans le sens des départs par bison futé. Autre technique pour éviter les embouteillages, vous savez, passer par les petites routes et donc les petites communes. Mais certaines sont exaspérées par cet afflux de passages, comme vous l'avez constaté à Choconin-Neufmontier en Seine-et-Marne, Anna Huot.
Dans cette commune d'un peu plus de 3000 âmes, seul le tintement du clocher de l'église rompt le silence de la nature, sauf quand viennent les heures de pointe et avec elles le ronflement des voitures, car le bourg est devenu un itinéraire bis, d'après Philippe.
Oui, c'est vrai que dès que la Nationale 3 est bloquée, automatiquement, ils détournent tous les véhicules sur Choconin-Neufmontier.
Et résultat, un peu beaucoup pénible pour Mélissa et Fabienne qui vivent ici depuis des années.
Il y a beaucoup de passages et très compliqué de circuler, quoi.
En général, on sait qu'on peut rallonger 10-15 minutes le temps d'arriver chez nous.
Ils foncent, il ne faut pas attention à la sortie de l'école, c'est un petit peu dangereux.
Alexandra, elle relativise. Elle-même utilise cette application GPS.
Certainement que j'embête d'autres personnes ailleurs, c'est le jeu.
Le problème est bien connu de la mairie qui a déjà comptabilisé plus de 1000 passages sur une seule matinée. Emmanuel Calaillan, maire adjoint en charge de l'urbanisme.
On fait remonter aux autorités le département. On a également informé la communauté de communes du Pays de Meaux. Voilà, on attend des solutions.
L'autorité des routes départementales a notamment promis l'installation d'un système de comptage ainsi que d'outils pour relever la vitesse des véhicules.
Le reportage d'Anna Huot. Le football et Angers qui va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Un pauvre match nul 0-0, oui, contre Dunkerque pour la dernière journée de Ligue 2 hier soir. Mais ça passe grâce à la défaite de Buzyn de Saint-Etienne à Quevilly-Rouen. Les Verts terminent donc 3e et barragistes, tout comme le Paris FC et Rodez. Et puis chez les femmes, un bravo aux Lyonnaises. Un 17e bravo, c'est leur 17e titre de championne de France, acquis hier soir en allant battre, en battant le Paris Saint-Germain de buts à 1 en finale des play-offs.
En rugby, la 24e journée de top 14 ce week-end, plus que 3 avant la phase finale et encore du suspense à tous les étages.
Et en haut du tableau, malheur aux vaincus ce soir entre La Rochelle et la section paloise. La Rochelle seulement 6e, un point d'avance sur Pau, le vainqueur des deux dernières Coupes d'Europe Rochelais, est rentré dans le rang cette saison. Forcément pas facile à vivre, Romain Asselin, sur les bords de l'Atlantique.
Être supporter de La Rochelle cette saison, c'est comme perdre un peu d'espérance de vie chaque week-end.
Faut avoir le cœur bien accroché avec le Stade Rochelais. Hein.
C'est vrai que je me mets dans des états de stress.
On a perdu des matchs, souvent à un point.
C'est les victoires à la 85e des fois. On est toujours dans l'émotion avec eux. C'est les montagnes russes.
Jamais La Rochelle n'a enchaîné plus de 2 victoires cette saison en top 14. Un rendement loin de son statut, d'où cette saison éprouvante. Jules Favre, l'un des ailiers du Stade Rochelais.
C'est une situation qu'on n'a pas encore trop vécue, où on est dans le dur pendant toute la saison, où tu cravaches pour rester dans le top 6 alors qu'avant on avait un peu plus de marge, donc tu joues pas avec la peur, mais là on est obligé de batailler.
Batailler pour se qualifier, même si ça n'affole pas vraiment Winnie Antonio, pilier du 15 de France et de La Rochelle.
Peut-être de l'extérieur, on donne une perception qu'on n'est pas bien, mais moi j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. On gagne pas tous les matchs, mais on n'est pas mal placé, quoi. On joue pas le maintien, faut juste réajuster notre rugby. On va retrouver La Rochelle qu'on avait pendant 3-4 ans. Ouais.
Celui capable de rivaliser avec le Stade Toulousain, grand favori, encore une fois, au Brennus.
Et match à suivre en intégralité sur RMC, coup d'envoi 21h05. Mais avant cela, sur RMC Découverte, ce sera la course du Quintet à suivre en direct. Le Quintet sur l'hippodrome d'Auteuil à 15h15. Voici le pronostic de Mathieu Zaccanini de la Dream Team des courses RMC. Son favori, le numéro 11, Irish Point. Son outsider, le numéro 10, Mr. Incredible.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup, Victor Pourchet. Et bonjour, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Comment ça va? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu.
Ben oui, bah, et la faute à qui?
Bah ouais, je me demande, à qui? Bah, à vous?
Ah, non, ah. Moi je vous renvoie le compliment.
Bon d'accord, c'est vrai que j'étais en pont, en viaduc de l'Ascension, là. Et alors, j'ai le droit.
Nous avons fait quelques délocs, notamment au Mans. C'était dimanche
voilà.
Dernier, on s'est régalé. Mais là nous sommes dans le studio RMC, ouais. Avec ce matin Fred Weiss, David Douillet, Marc Madiot et Christophe Cessieux.
Équipe de choc.
Bien sûr, et équipe de France. Car nous allons revenir sur la liste de Didier Deschamps et nous poser cette question. Est-ce que l'Euro passe au second plan cet été, avec évidemment les Jeux Olympiques. Julien Alaphilippe qui a renoué avec le succès, c'était cette semaine sur le Giro. Doit-il changer d'avis sur le Tour de France? Ça tombe bien, Marc Madio, c'est bien fait, hein, sera avec nous dans cette émission. Et puis nous parlerons d'une légende du basket français. Elle s'appelle Sandrine Gruda et elle a été recalée pour les Jeux Olympiques. Faut-il tout de même récompenser une légende? On se posera la question à 11h. Bref, beaucoup de débats et on reviendra aussi sur le sacre des Lyonnaises, championnes de France hier pour la 17e fois.
J'espère bien. Rendez-vous à tout à l'heure, 9h30 pour les grandes gueules du sport. D'ici là,
on va se régaler avec Perico.
Oui, bien sûr. Le beurre et l'argent du beurre. Perico, de quoi parle-t-on ce matin?
Eh ben, on va peut-être pas forcément suivre le guide parce qu'il nous amène pas toujours dans les bons endroits.
Allez, on se retrouve dans deux minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre.
Avec Perico Légas. Bonjour Perico.
Bonjour Anaïs, bonjour Martin.
Et Martin Bourdin, bonjour Martin.
Bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver pour parler des guides gastronomiques, le guide Michelin, le Goemio, qui ont longtemps été considérés comme des bibles du bien manger. Mais peut-on encore s'y fier?
Ils étaient les seuls, surtout le Michelin était seul pendant très longtemps, jusque dans les années 70. Ensuite arrivé Goemio, qui a justement été un rival, qui a stimulé le Michelin, qui apparaissait du coup pour un peu le guide un peu ringard, le guide de papy. Le Goemio, c'était le guide plus de journalistes dans la polémique, dans la découverte. Et donc Michelin a repris l'élan qui lui manquait. Goemio est tombé à port des huitudes parce que ce sont les retournes. Le Michelin est resté une institution parce que c'est quand même une grande firme multinationale qui a des moyens. Et le Michelin est toujours présent avec beaucoup moins de ventes, beaucoup moins d'impact. Aujourd'hui, plus personne n'achète le Michelin en France pour aller au restaurant. La toile, le web, aujourd'hui, c'est là que les gens voient comment évolue la gastronomie. Oui. Le Michelin a son site aussi. Donc, il y a quand même une forme de guide à l'ancienne qui sont les guides, j'allais dire, conventionnels, avec dans un guide papier, donner des adresses, même si ensuite un site internet. Et puis, il y a la mouvance, c'est-à-dire le mouvement de la cuisine française qui évolue. Voilà. Et là, le Michelin, il a un problème, c'est qu'il fait de la sélection, j'allais dire, culturelle, médiatique, un peu marketing, et il oublie qu'il y a en France beaucoup de très bonnes maisons qui doivent être signalées, parce que quand on voyage en France, on a le droit de goûter à toute forme de cuisine, à tout type d'établissement. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'étoile qui incarne cette démarche de com. Ils font de la com et du marketing au détriment de leur première vocation, qui est de donner dans chaque ville, dans chaque étape des routes de France et du monde entier, puisque le Michelin est dans le monde entier, les bonnes étapes où on mange bien, où on dort bien.
Les étoiles au guide Michelin, c'est prestigieux, mais est-ce réellement un bon indicateur de la qualité d'un restaurant, des produits servis? Martin Bourdin, comment font-ils pour attribuer les étoiles?
Eh bien, ils s'appuient en fait sur 5 critères d'évaluation qui n'ont jamais vraiment changé. En fait, ces 5 critères, les voici. D'abord, la qualité des produits. Ensuite, la maîtrise des cuissons et des saveurs. La créativité du chef dans ses plats. Le rapport qualité-prix, évidemment. Et la prestation de service. Des critères évalués plusieurs fois dans une année par des inspecteurs anonymes, là aussi. Ils ne se présentent en fait qu'après avoir fait la dégustation pour ensuite demander des informations supplémentaires au restaurateur. L'attribution des étoiles, elle est ensuite décidée de manière collégiale via un vote. La particularité du guide Michelin, c'est qu'il ne juge que ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est finalement la grande différence entre le guide rouge et le Gotemio, qui prend, lui, en compte l'ambiance, l'accueil, le service, le cadre pour attribuer ses notes et ses fameuses TOC. L'objectif de tous ces guides, c'est évidemment d'être le plus objectif possible, mais la recette, on l'a dit, ne semble plus forcément très bien fonctionner depuis 10 ans. Les ventes papier du guide Michelin ont dégringolé moins 62%, moins 75% pour le Gotemio, quand 9 clients sur 10 s'appuient désormais sur les notes, les avis internet au moment de choisir leur restaurant.
Je m'inscris personnellement en faux sur ce qu'a dit Martin est officiellement vrai, mais il ne l'applique pas du tout. Si c'était que le contenu de l'assiette en soirée, bien entendu que l'investissement de l'établissement dans le décor, dans le standing, dans le prestige compte énormément pour l'attribution de l'étoile. La preuve, c'est que plus il y a d'étoiles, plus le restaurant est cher, plus il est prestigieux. Donc ils peuvent pas dissocier le côté économique et social du côté culinaire. Et je vous dis, on est surtout sur une cuisine de tendance, une cuisine qui est dans la modernité, qui est dans l'avenir, qui est dans le vent. Or la cuisine française, elle est multiple, elle a ses écoles, elle a ses traditions, elle a ses périodes, et le Michelin peut pas faire abstraction.
Les inspecteurs, c'est qui?
On n'a jamais su le nombre exact. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de 10, 15 inspecteurs. Il serait peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Ça coûte cher. Le Michelin paye ses additions. Mmh. C'est un guide qui n'est pas subventionné que par sa firme. Donc, je comprends qu'ils ont un enjeu économique. Et on se dit qu'avec même une dizaine d'inspecteurs pour vérifier autant de milliers d'établissements tous les ans, ce n'est pas possible. Donc, l'immense majorité des établissements ne sont pas vérifiés tous les ans. C'est sur un questionnaire qu'ils envoient et que le restaurateur répond. Ne sont contrôlés que les 2 et 3 étoiles, peut-être une étoile. Les 2 étoiles plus souvent, les 3 étoiles forcément encore plus souvent. Mais l'ensemble des restaurants et des hôtels cités dans Michelin ne sont contrôlés que sur questionnaire. On comprend très bien, on peut pas tout vérifier tous les ans, mais les gens ont l'impression que tout a été évidemment contrôlé chaque année, ce qui n'est pas vrai.
De ce que j'ai pu lire, il y a pour rentrer, pour devenir inspecteur au guide Michelin, faut avoir minimum 30 ans, Pierrico, vous me dites si je me trompe, avoir au moins 10 ans d'expérience et être diplômé de l'hôtellerie. De ce que j'ai lu, un inspecteur du guide Michelin prend en moyenne 250 repas par an pour travailler pour le guide.
Ah, il y a la cadence, hein. Ils sont obligés de faire un repas le midi, un repas le soir. Alors, ils changent de région, ils tournent selon les régions pour qu'on les reconnaisse pas. Malgré tout, les inspecteurs des années 60, 70 et même avant 80, je pense qu'il y avait une culture et une compétence. J'ai aujourd'hui un doute tout à fait respectueux sur la compétence des inspecteurs du Michelin, qui ont peut-être une culture culinaire et une culture professionnelle qui n'est pas celle, pas aussi poussée, puisque pour voir la sélection du guide Michelin aujourd'hui, qui a fait abstraction, qui a viré, j'allais dire presque tous les restaurants classiques, traditionnels, de très bonnes maisons dans des villes qui ne sont plus, vous avez des villes où il n'y a plus. Il n'y a plus d'établissement classé au Michelin, c'est pas possible. Il y a de très bonnes maisons françaises qui mériteraient d'y être, qui ont été très longtemps, y compris avec une étoile,
tiens, Pierrico,
et qui n'y sont plus.
Pierrico, j'aimerais savoir ce que ça fait de perdre une étoile, justement, au guide Michelin.
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
On est avec Alain Nonnet, ancien chef, figure historique de l'auberge de la Cognette à Issoudun dans l'Indre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Alors vous avez eu une étoile pendant 36 ans, je crois.
Oui, 36 ans.
Elle vous a été retirée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah ben on ne sait pas exactement pourquoi, et surtout que je n'ai pas été averti. J'ai appris le matin par la radio locale que j'avais perdu mon étoile.
Ah oui, vous l'avez appris comme ça, hein.
Le matin, en écoutant la radio, j'apprends que le guide Michelin est sorti et que dans l'Indre, eh bien, la Cognette avait perdu son étoile.
Qu'est-ce que ça a changé ?
Oh ben vous prenez un coup de poing dans la gueule, hein. Appelons les choses par leur nom, hein. Quand c'est que vous avez 36 ans d'étoile, que vous n'avez pas une observation, que vous avez que des commentaires qui sont convenables, même plus que convenables, vous êtes surpris. Ça n'a rien changé quant à ma
à la fréquentation. C'est une question de d'égo, de l'image,
psychologiquement. Bien sûr. Quand on n'est pas prévenu. Vous voyez, Michelin pourrait, ce qu'ils font quelquefois avec les grands cuisiniers, ils les appellent, ils leur disent il y a eu un petit problème sur un plat, sur un accueil, voilà, on se discute, attention pour la prochaine fois. Mais là, c'est terrible, c'est une légion d'honneur. Je vous dis qu'on vous donne et on vous l'arrache. Sans prévenir, du jour au lendemain, terminé, circuler, il n'y a rien à voir.
Ils n'ont même pas la politesse de téléphoner avant.
Mmh. Alain Nonnet, est-ce que vous pensez avoir été victime de cette politique qui vise à être dans la tendance, ce que disait Pierrico à l'instant ?
Écoutez, j'en suis quasi persuadé. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas une connotation un peu asiatique et qu'on respecte les critères de la cuisine française, on est sanctionné.
Quand vous n'êtes pas assez fusion, c'est ça ?
Oui, non, mais en plus, Alain Nonnet peut le dire, la Cognette a été sortie du guide Michelin. C'est-à-dire que quand on ouvre le guide Michelin et qu'on va à Issoudun, il n'y a plus Issoudun, quoi. La ville a été rayée de la carte.
Et que, comme disait Pierrico tout à l'heure, il a entièrement raison. Lorsque l'on voyage dans l'Indre, on voit Issoudun, Issoudun, il n'y a rien. À Issoudun, on ne peut ni manger, ni boire, ni coucher, il n'y a plus rien.
Sauf que vous dites que les clients viennent quand même, parce qu'il y a une réputation.
Bon, parce qu'on a notre clientèle habituelle, si vous voulez. On travaille exactement comme avant. Disons qu'il y a quand même une chose qui me questionne un petit peu, et je voudrais savoir pourquoi la Cognette est un petit peu boycottée. Parce que The Fork, qui est le centre de réservation, je crois, de Michelin, nous avons la modeste note de 9,8 sur 10.
Mmh. Oui, donc l'excellence.
La Cognette.
Alors, faudrait qu'on m'explique quand même un petit peu, il y a des choses que je ne comprends pas. Bah, mais je dois être trop bête pour ça.
Non, mais je dirais que c'est un petit peu, entre guillemets, idéologique. C'est une histoire de mode, de tendance. Le Michelin veut décerner des étoiles à des cuisines qui sont, j'allais dire, dans l'avant-garde, en permanence. Et il y a beaucoup de maisons françaises, et la Cognette en est une à Issoudun. C'est une auberge française traditionnelle, une merveilleuse maison, tant en hôtellerie, la table est exceptionnelle, le gendre de Alain Nonnet, Jean-Jacques Domi, est un cuisinier exceptionnel. C'est une cuisine contemporaine, extrêmement créative, mais qui tient en compte la saison, le terroir, la région, des produits locaux, avec des recettes traditionnelles, qui ont et un succès formidable. Donc ça veut dire que le Michelin fait un choix idéologique. on ne regarde plus, qui porte aujourd'hui les valeurs traditionnelles de la cuisine française, considérées peut-être comme un peu conservatrices, ce qui est faux pour la Cognette et pour d'autres maisons, comme je pense au Cocardi à Pouilly-sur-Loire, qui sont de merveilleuses maisons avec des maîtres ouvriers de France en cuisine. Jean-Jacques Demy est un grand cuisinier. Là, le Michelin doit assumer que c'est un choix idéologique, et sortir la Cognette du guide Michelin à Issoudun, c'est un crime contre la cuisine française. Voilà, c'est leur droit, hein. C'est une publication privée. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je trouve ça absolument scandaleux.
Merci Alain Nonet. Oui.
Non, je voulais rajouter une petite chose, si vous me permettez.
Bien sûr.
C'est qu'une telle position du guide Michelin est en train de foutre en l'air toute la valeur de la cuisine française traditionnelle.
Alain Nonet, ancien chef figure donc de l'auberge de la Cognette à Issoudun ce matin sur RMC. On l'entend très touché hein, par cette décision. Oui. On peut aussi se poser la question de quelle valeur ils ont vraiment ces guides aujourd'hui. Est-ce que ça vaut pas plus le coup quand on est restaurateur de faire sa com sur les réseaux sociaux, de passer par Instagram, et beaucoup le font.
C'est ce qu'ils font, et d'ailleurs les restaurants français qui sont pas dans les guides, il y en a quand même quelques-uns, continuent à avoir de la clientèle, de la fréquentation et du succès, parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, on va dire que c'est une des vertus d'Internet. Le faire savoir continue à fonctionner et des établissements qui ont été maltraités par le Michelin continuent à très bien travailler. Je peux vous dire, quand on perd sa troisième ou sa deuxième étoile, là aussi c'est terrible. Une étoile, bien entendu, ça l'est aussi. Les victimes, entre guillemets, du guide Michelin sont nombreuses. Elles s'en sont mises, elles continuent à travailler et la cuisine française dans ces maisons est toujours très en forme. Que le Michelin l'aime ou l'aime pas, la cuisine française, elle était là avant le guide Michelin, elle sera là après le guide Michelin.
Une cuisine française qu'on va continuer à célébrer.
Dans sa diversité, de
tous les jours, enfin tous les samedis et dimanches, dans le beurre et l'argent du beurre. Demain, on parlerait du poulet du dimanche, plat préféré des Français.
Comment réussir un vrai poulet, et c'est un grand moment quand c'est bien fait.
Merci Perico, à demain.
Le beurre et l'argent du beurre à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
Vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute sur RMC, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.